Merci beaucoup à la louange. C'est vrai que la louange, c'est quand même quelque chose d'important. Moi, je n'ai pas toujours réalisé l'importance de la louange, l'importance de proclamer, comme on vient de le chanter là, que notre Rédempteur est vivant, que notre Dieu est vivant, que notre Sauveur est vivant. On dit tellement de choses avec nos bouches, on dit tellement que, bah oui, que notre semaine elle est pourrie, que même celui-là, il m'enfoire. Hein. Enfin, bref, on a tellement de choses comme ça. On a tellement des fois des paroles de malédiction que la louange nous fait dire des paroles qui dépassent notre intelligence, des paroles bonnes, des paroles en plus que notre Rédempteur, que notre Sauveur apprécie et qui le glorifie sur cette terre. Et tout ce que nous pouvons justement, par la louange, proclamer, dire, c'est toutes des choses qui élèvent aussi, nous élèvent, nous font changer un peu de perspective par rapport à notre façon de voir les choses et nos vies. Et c'est pour ça que c'est important. Des fois, dans notre semaine, on a l'impression que notre Seigneur, il est à côté de nous. Mais vous savez, le Seigneur, et c'est marrant parce que Emmanuel l'a dit, mais le Seigneur, il est en nous. Hein. Il est en nous, il n'est pas seulement à côté, il est en nous. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit... Et la louange nous le fait remonter, cette présence, sa gloire, sa sainteté, là, nous habite. Donc voilà, c'était un peu une introduction, le lien, parce que je voudrais revenir un peu sur ce que Georges, vous savez, il y a quelques semaines, nous a parlé des arbres. Et moi, j'aime bien aussi ces images-là des arbres. Et je voudrais revenir particulièrement sur un peu la conséquence, enfin, la raison des arbres, c'est aussi de porter du fruit. Et juste relire, si tu peux afficher ce passage de Luc, chapitre 6, le verset 43 et 44, qui dit, voilà, hein, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Et moi, je pense que, comme moi, vous avez envie. Vous avez envie que vos vies portent du fruit. Et puis, vous avez envie que ces fruits soient utiles pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Et beaucoup ont ce désir. Et quelquefois, ben, on va chercher... avec nos moyens humains, la force, la sagesse, on va essayer de porter des fruits. Et Jésus-Christ, justement, nous ramenant de la mort à la vie, grâce à son sacrifice et sa résurrection, ben c'est lui qui nous communique cette nouvelle vie. C'est lui qui nous communique cette nouvelle vie pour nous rendre capables de produire du fruit. Néanmoins, comme pour toute plante, la volonté propre ne suffit pas. Il faut aussi de bonnes conditions. Il y a des saisons, il y a des soins à apporter à la plante, il y a de l'engrais, il y a de la lumière, on en a parlé dimanche dernier. Et tout ça font que la vie de la plante, elle est rythmée. Et c'est nécessaire avant que des fruits se présentent. Et les fruits ne viennent pas forcément tout de suite. Il faut préalablement tout un processus, et ça c'est le processus de la vie. Et ce matin, justement, je voudrais voir quelles sont les conditions favorables à ce que la vie et les fruits puissent être produits. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de lire la parabole du figuier. Luc 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Et le vigneron lui répondit, « Mais Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Et ces paroles donc de Jésus font écho et viennent préciser justement ce que Jésus dit au verset 44 donc, qu'on a lu du chapitre 6. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Donc en lisant ces paroles du chapitre 6, nous voyons que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Cela veut dire que si on reconnaît, l'arbre est connu avant. Hein, et ce ne sont pas nos fruits, finalement, qui nous permettent d'être connus de Dieu. Et de même, dans la parole du figuier, nous voyons que ce figuier ne porte pas de fruits depuis 3 ans. Et pourtant, le maître et le cultivateur connaissaient très bien quelle était l'essence de cet arbre. Car justement, ce sont eux qui l'avaient planté hein, auparavant. Et c'est vraiment très important de savoir que nous sommes connus de Dieu. Et que c'est lui qui nous a placés ici, ou là, pour que là où l'on est, eh ben, on porte tel ou tel fruit. Et comme tout bon cultivateur, ben, il s'attend, Dieu aussi s'attend, à ce qu'il cultive, ben, porte bel et bien du fruit. Et concernant ce figuier qui ne portait pas de fruit, le vigneron qui est une image du Christ, hein, il vient apporter du fumier. Ce fumier, c'est ce qui est nécessaire au pied de l'arbre pour lui donner les meilleures conditions afin qu'il porte son fruit. Alors on pourrait rentrer en détail dans la composition du fumier pour voir quels sont ses nutriments favorables à la fructification. Mais ce que je retiens principalement, c'est que la grâce, c'est la grâce de notre Seigneur et la puissance de la vie qui déclenche la fructification. Et dans nos vies aussi, peut-être, on a l'impression que, ou on a carrément, même pas une impression, qu'on a les pieds dans le fumier. Et on a besoin de réaliser justement notre situation de désobéissance pour que la repentance puisse faire son œuvre de vie. Ce fumier, c'est une très belle image de tout ce qui vient pourrir notre relation avec Dieu. Et une fois que nous venons déposer au pied de la croix ben, toutes nos imperfections, nos faiblesses, notre orgueil, tous nos défauts, ben, la grâce de notre Saint-Esprit fait tout le reste. Et sous l'effet de la lumière de la parole et le souffle du Saint-Esprit, ben, la boucle est bouclée, le croyant porte du fruit. Et ça, c'est ce miracle de la vie que Christ fait en nous. Et c'est de cela principalement dont nous devons être conscients. On trouve des fois peut-être banal qu'un tas de branches l'hiver sur un tronc, ou bien des fois un buisson mort, ou encore une graine morte, ben, verdisse au printemps et puis donne son fruit au l'été. Je vais vous raconter une anecdote. On a une haie de buis à la maison. Et puis elle a été complètement bouffée par la pyrale du buis et elle est morte. Et on a commencé à arracher quelques pieds, mais c'est horrible à arracher, on se détruit le dos. Donc j'ai pris la tronçonneuse et puis ce qui restait, j'ai coupé au pied. J'ai coupé au pied. C'était mort, c'était sec. J'ai dit, ça ne reviendra pas. Et le printemps, ben, on a commencé à avoir des branches vertes qui ont poussé, tout ça. Et puis là, à la fin de l'été, ben, c'était déjà haut comme ça. Le miracle de la vie, c'est cela. On a l'impression que tout est mort peut-être dans nos vies. Mais le miracle de la vie est là. Et malgré justement cette éventuelle apparence trompeuse de la mort, la puissance de la vie nouvelle en nous, et les conséquences qu'elle a dans nos vies deviennent la normalité. Ainsi, dans la mesure vraiment où le Seigneur est le maître de nos vies, de notre vie intérieure, mais il a tout le loisir de travailler en nous. Et comme nous sommes amenés à porter du fruit, si la volonté de Dieu doit être faite par nous sur la terre, eh bien Dieu l'applique déjà dans notre vie intérieure. Il l'applique déjà avant. Alors vous vous sentez peut-être sec, comme ces branches sur un tronc, incapable de porter du fruit. Le Seigneur nous dit là, et les 3 années sont passées. Notre Dieu vous connaît. Et dès aujourd'hui, là, maintenant, c'est la saison où il va s'occuper de vous pour vous amener au pied de la croix et réunir toutes les conditions favorables à votre fructification. Il est important de savoir que Dieu sait très bien quel bon fruit nous sommes aptes à porter. Et la grâce de Dieu, dans la mesure où nous la laissons agir, nous donne la capacité de porter ces bons fruits. Donc chaque croyant est donc là à sa place pour porter du fruit, comme chaque membre du corps a son utilité pour l'édification de l'Église. Néanmoins, pour porter du fruit, on en a parlé tout à l'heure, il faut des conditions favorables. Elle doit être réunie. Et je rappelais ces versets que Georges nous avait rappelé, c'est ces versets de Jérémie 17, versets 7 et 8. Et puis ça reprend ce psaume 1, mais à une nuance près, c'est pour ça que je préfère quand même ce passage, passage prophétique de Jérémie 17, qui dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Voilà, donc, il ne cesse de porter du fruit. C'est le plan de Dieu pour chacune de notre vie. Et d'après ce texte prophétique de la parole, les deux conditions favorables, tu peux le laisser afficher, pour porter du fruit, donc sont d'être, première chose, planté près du courant d'eau, et la deuxième chose, c'est d'étendre ses racines vers le courant. Alors on voit bien l'intérêt de rester dans la proximité de notre Seigneur, car dans cette proximité, nous sommes dans la présence de sa sainteté. Et cette sainteté nous gagne. Paul dit dans le deuxième épître à Timothée, 2 Timothée 2, verset 21, tu l'as affiché, je ne sais plus. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors évidemment, la sainteté, ce n'est pas le propre de l'homme, mais bien celui de Dieu. Et c'est justement dans la proximité de Dieu que nous avons la possibilité de se conserver pur. Car c'est ainsi, rendu saint, par sa présence, nous pouvons porter du fruit et être utiles à notre maître pour toute bonne œuvre. Je vais quitter un peu le domaine des végétaux en été pour celui des outils. Il n'est pas des fois pas bien loin, hein. Mais il nous arrive à tous d'utiliser des outils, que ce soit pour la cuisine ou le bricolage, dans nos tâches ménagères, on a tous besoin d'outils. Et on aime bien les avoir à portée de main, les outils. On aime bien les avoir propres et en état de marche pour faire ce qu'on a à faire. Mais pour notre Seigneur, c'est pareil. Il nous veut dans sa proximité, apte au service, propre à toute bonne œuvre. Voilà pourquoi la première condition est d'être planté près des eaux, dans la proximité directe de celui qui purifie et sanctifie. Alors c'est une chose d'être planté près des eaux, mais encore faut-il que les racines s'étendent vers le courant, et ça c'est la deuxième condition. Pour que l'arbre n'aperçoive pas la chaleur, pour que son feuillage reste vert et qu'il ne cesse de porter du fruit, les racines de l'arbre ne doivent pas s'étendre vers le sec, mais bien vers le courant d'eau. Hébreux 12, verset 15 dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Il n'est pas question que les fondements du croyant soient basés sur des racines d'amertume, mais au contraire abreuvés par le fleuve de la grâce. Et vous savez, les racines de l'arbre ont deux rôles. C'est le moyen par lequel l'arbre se nourrit et aussi par lequel il est solidement ancré dans la terre et équipé pour affronter les tempêtes. Et pour le croyant, c'est identique. Quelles sont ces racines qui à la fois le nourrissent et le maintiennent ferme dans son engagement? Alors on a souvent appelé ces quatre choses les piliers de la vie chrétienne. Et avec cette image des racines qui stabilisent l'arbre, cela prend encore plus de sens. Et donc je voudrais ce matin revoir avec vous combien ces quatre racines, bien orientées vers le fleuve de la grâce, font chacune de nos vies des porteuses de fruits. Et ces quatre racines, au socle de la vie chrétienne, ce sont la prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle et le témoignage. Ce sont ces quatre choses que nous retrouvons dans la première église à Jérusalem, et on voit ça dans Acte 2, où les chrétiens persévéraient même dans ces quatre choses. Et on voit qu'à la fin du chapitre 2, une fois que ces conditions favorables étaient réunies, la conséquence bénie, c'est que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors sans développer outre mesure, car je sais qu'on est tous, sensibles à cet appel que le Saint-Esprit fait en nos esprits. Il fait cet appel pour nous maintenir justement dans cette sainteté, dans sa proximité. Il fait tout pour que nous soyons dans de bonnes dispositions pour porter du fruit. Et le Saint-Esprit nous aide à être persévérants comme il a aidé les premiers chrétiens, qui pour eux étaient une découverte. Il nous rend persévérants dans toutes ces choses. Mais néanmoins, nos vies à 100 à l'heure, où les contrariétés que nous vivons chaque jour font que nos racines, des fois, ont tendance à se détourner du fleuve de la grâce pour se détourner vers des citernes crevassées ou des mares à l'eau croupie, où bien souvent on finit à tourner en rond dans nos problèmes. C'est pourquoi, malgré les situations contraires, le courant d'eau, lui, est toujours là. Il n'a pas bougé. Donc les conditions favorables pour porter du fruit peuvent aussi être réunies. Donc la première condition favorable, c'est la prière. Car par elle, le contact direct avec Dieu est possible. C'est la seule activité humaine qui permet le face-à-face avec le Créateur. Et avant toute autre chose, c'est en nos adorations à Dieu en premier, par la prière, que nous lui avons dit que nous l'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur de nos vies. C'est ainsi que c'est cette première racine qui a eu accès à l'eau de la vie. Et désormais, par la prière, notre âme est en dialogue avec celui qui nous a donné la vie. La prière, c'est cette vie même qui va nous traverser. Et plus notre vie de prière est développée, plus nous sommes riches dans le royaume de Dieu. La prière, c'est un dialogue privé avec nos dieux, avec notre Dieu, qui ne regarde que vous et Dieu. Matthieu 6, verset 6 dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Cette notion de fermer la porte induit une discipline pour éloigner toute autre distraction qui empêcherait à notre âme d'avoir son dialogue régulier avec celui qui lui a donné la vie. Et ce dialogue n'est pas seulement dans un sens, il est fait de demandes, il est aussi fait de remerciements, d'adoration, de louanges individuelles. La deuxième condition favorable, c'est d'être en contact avec la parole de Dieu. Donc c'est une deuxième racine. Le fait de lire la Bible nous instruit, ça nous nourrit de ce que Dieu dit. Et nous savons que quand Dieu parle, la chose arrive. Cette parole, c'est une nourriture énergisante qui donne la force à l'esprit de vie et qui nous transforme de l'intérieur. Ainsi, notre foi qui vient de la parole de Dieu sera forte pour permettre à notre âme d'affronter n'importe quelle tempête. Appuyés sur les promesses de la parole de Dieu, nous sommes à notre tour, nous, la parole faite chair, et nous, on est ses témoins vivants sur la terre. La troisième condition pour porter du fruit, c'est la communion fraternelle. On a chanté ce chant, cette chaîne d'amour. C'est le plan du Seigneur pour son Église. Et Dieu nous a créés comme des êtres profondément relationnels. Et si les deux premières racines orientent la relation plutôt verticale avec Dieu, entre Dieu et nous, eh bien, les deux autres racines orientent plutôt la relation spirituelle horizontale entre les hommes. Oui, nous faisons partie d'un immense organisme spirituel. L'Église qui intègre les enfants de Dieu de toute la surface de la terre. Et fort de notre relation individuelle avec Dieu et centrée sur la présence de notre Seigneur au milieu de nous, eh bien, nous avons la capacité de nous aimer comme jamais l'humanité n'a eu cette possibilité. La qualité de l'unité que le Seigneur a prévue entre les croyants est telle que rien ne peut la détruire. Chaque frère ou sœur que le Seigneur met à côté de nous, eh bien, nous sont indispensables. Vous savez ça ? Vous m'êtes indispensables. Nous sommes invités à rechercher ces moments bénis ou réunis ensemble dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes totalement intégrés à lui pour former un seul cœur, un seul corps. Et par la louange, eh bien, nous vivons cette présence vraiment particulière. Ainsi, grâce à cette qualité de relation, animée par notre amour renouvelé, nous tous, nous pouvons être un réel témoignage à l'amour de Dieu envers ce monde perdu. Et c'est ce qui nous amène à la quatrième condition favorable pour porter du fruit, ben c'est justement le témoignage. Nous ne pouvons pas garder Dieu et ses immenses bénédictions pour soi. Et le témoignage des enfants de Dieu est le moyen par lequel le monde entier peut connaître la vérité de l'amour de Dieu. Et outre les bénédictions que le témoignage est pour l'humanité, il donne aussi un équilibre nécessaire au croyant lui-même, qui redonne finalement ce qu'il a reçu. Parce qu'on ne peut pas garder cette grâce, cet amour, cette puissance pour nous-mêmes. Donc on a été créé pour de bonnes œuvres, c'est-à-dire pour porter du fruit et faire le bien autour de nous, comme Jésus qui allait de lieu en lieu faisant le bien, faisant connaître ce qu'il a fait pour tous les hommes. Alors il y a cette réalité que la moisson est grande. Depuis 2000 ans, ce verset est cité, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande et il est temps de moissonner car le fruit est mûr. Alors nous voyons une société perdue qui se réfugie dans les trois irs, désir, loisir, plaisir, et qui a besoin de saisir la main de Jésus. C'est ce que Jésus veut faire justement avec tous les hommes. Ne soyons pas surpris si subitement des non-croyants touchés par l'Évangile nous rejoignent en masse. Et moi, je voulais vous proposer juste la vidéo. Tu peux mettre cette vidéo qui montre justement cette prise de conscience d'un réveil qui se prépare en Europe. Voilà, proclamons que l'Europe sera sauvée. C'est le plan que le Seigneur veut, vraiment pour l'Europe. On peut être bien sûr dans le doute, mais je pense que, comme la louange, si on commence à prier chaque jour pour cela, si on commence à proclamer, comme d'autres le font, que l'Europe sera sauvée, mais qu'est-ce qui peut empêcher le Seigneur et le Saint-Esprit de faire ce travail ? Et moi, je vous encourage à prier, c'est vrai, à prier pour vos voisins, pour vos proches. Des fois, on voit peut-être d'autres priorités. La priorité, c'est notre relation, des fois, avec Dieu. On en a parlé, c'est important. Mais n'oublions pas ces quatre aspects. Il n'y en a pas un plus qu'un autre. Et on a besoin de la prière individuelle. On a besoin de la parole de Dieu, qu'elle soit enseignée, qu'elle soit lue régulièrement par chacun de nous. On a besoin de ces moments de communion fraternelle, de la louange, de notre prière aussi communautaire. Et on a besoin, comme les jeunes vous l'avez fait hier, de sortir dehors, de ne pas avoir peur, d'oser aller distribuer des choses, d'aller oser parler de notre évangile. Et je pense que tous, on a son rôle à faire. On est cette lumière dans ce monde, nous sommes ce sel de la terre, et je pense que la priorité, elle est là. Les temps sont... Il y a, je crois, un passage dans Joël qui dit qu'il faut même prendre la faucille, car les blés sont mûrs. C'est se faire violence, c'est aller à la chaleur, aller au contact. Les temps de moisson sont des fois difficiles, mais quel bonheur quand tous dans le ciel, on sera d'autant plus nombreux et à pouvoir louer et partager ces moments-là. Voilà, notre Dieu, nous te prions. Oui, nous te prions pour l'Europe. Nous te demandons que l'Europe soit sauvée, Seigneur. Tu veux agir, tu veux encore apporter des personnes qui ne te connaissent pas à la lumière. Tu veux agir ici à Prévesin, Seigneur. Tu as tout un peuple dans cette ville. Nous savons que nous ne sommes pas ici, une petite église à Prévesin, par hasard, et que tu as tout un grand peuple dans cette ville, Seigneur, et tu veux l'attirer à toi. Tu veux que ton nom soit glorifié par des vies qui actuellement ne te connaissent pas. Oui, Seigneur, nous remettons entre tes mains. Tu vois que nous avons besoin encore de progresser, nous avons besoin de réaliser combien cette vie en nous est tellement puissante, tellement fortifiante, énergisante, que tous nos soucis finalement pâlissent face à cet amour, face à cette puissance que tu mets. Oui, notre Dieu, nous voulons te prier que tu nous aides à changer notre perception de voir les choses, mais que nous le voyons avec le filtre de tes yeux. C'est pour ça, ce matin encore, nous profitons de ces temps de communion. On peut élever nos yeux vers toi et te voir agir dans chacun de nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Ouais, sois loué, Père, en ton nom. Amen.
Alors je vous partage les annonces du programme de la semaine. Tout à l'heure, on aura une répétition générale. Donc on a notre fête de Noël samedi prochain à la salle Gaston Laverrière à 20h30. Donc il y a encore des préparations, il y a encore un petit peu de boulot. Alors cet après-midi, répétition générale. Donc toutes les personnes concernées par la fête de Noël sont invitées. Et ça fait du monde. Alors la répétition générale, on n'aimerait pas qu'elle se termine trop tard, donc on aimerait la commencer tôt. Donc on vous propose de pique-niquer et on aimerait commencer à 12h30. Donc ça va, le culte finit pas trop tard. Ce week-end, on était présents sur le marché de Noël, donc sur la place devant la mairie, à Prévesin. Alors c'est jusqu'à ce soir 18h. Donc il y a encore un petit bout. Alors moi j'aimerais dire déjà un grand merci à Jean-Paul et Lydie qui ont été beaucoup présents malgré le froid. Et puis je vous invite à passer, puisque c'est encore ouvert jusqu'à 18h. Moi je vous invite à passer, ce sera déjà pour eux un encouragement, mais passer aussi pour donner de la visibilité au chalet qui nous est mis à disposition. Et peut-être que quelques articles vont vous intéresser pour faire des cadeaux. Le stand est vraiment très beau, les articles sont magnifiques et il y a plein d'articles à un prix très abordable et voilà, ce serait dommage de s'en priver. Ces articles, en tout cas les articles qui vont rester, seront ensuite en vente dimanche prochain ici. Donc prévoyez-le aussi pour avoir un petit peu de sous avec vous. Ce serait dommage de tout renvoyer comme ça. Concernant notre fête de Noël, il y a encore des besoins. On va amener le décor déjà le vendredi soir. Comme ça, samedi matin, on attaque direct. Alors moi, j'aurais besoin de deux personnes pour m'aider au transport. Venez me dire. Donc pour tous les besoins, c'est vraiment important que vous puissiez venir me dire. Comme ça, s'il y a des besoins qui ne sont pas comblés, on pourra encore faire des appels peut-être plus ciblés. Donc deux personnes le vendredi soir. À partir ou environ à 18h. À partir de 18h, on peut encore s'arranger pour les horaires. Ensuite, samedi matin, installation de la salle. Là, il faut du monde parce qu'il y a la scène à monter, le décor aussi, les chaises à installer, etc., etc. On vous propose de se retrouver le matin à partir de 8h. Ensuite, moi, j'aurais besoin de quelqu'un pour chercher un vidéoprojecteur. On loue un vidéoprojecteur pour la soirée. Mais on ne peut l'avoir qu'à partir de samedi matin. Donc c'est pas l'idéal parce que voilà, samedi c'est le jour où on installe tout. Donc si quelqu'un ayant une voiture pouvait faire l'aller-retour à Honnay, ce serait vraiment une bonne chose. Donc dites-le moi. Ensuite, on aurait besoin pour la soirée, puis même pendant la journée, de deux personnes pour assurer l'éclairage. J'ai demandé à des personnes qui avaient déjà fait les années passées, puis il se trouve que pour ces personnes-là, ça, ce n'est pas possible. Alors donc là, il y a besoin de deux personnes, une personne pour le suiveur, qui suit voilà, pendant la soirée, et une personne pour l'éclairage général, les spots qu'on met devant, et voilà. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas de faire encore de la pub. Je pense qu'il y a encore des flyers au fond de la salle. Dans une semaine, ils ne serviront plus à grand-chose. Donc voilà, parlez-en, c'est important. Et puis ensuite, moi je vous propose qu'on démonte le décor seulement le dimanche, parce que le samedi soir, il y aura des enfants qui vont traîner par là. Le décor est grand. Je pense que c'est beaucoup plus sûr de le démonter le dimanche. Alors dimanche après-midi, à partir d'environ 14h, il y aurait besoin de 6 personnes. Moi, je serai là aussi, évidemment, pour démonter et le décor et ranger la scène, puisque le décor sera posé en partie sur la scène de la commune. Et puis ensuite, la salle sera rendue le lundi matin. Ensuite, je vais laisser la place à Nancy, qui va nous faire une annonce pour le nouvel an. Et ouais, c'est bientôt là.
Bonjour, juste avant je reviens sur Noël, la semaine prochaine il y aura évidemment aussi répétition générale, il n'y a encore pas d'heure fixée mais bien sûr on va envoyer tout ça dans la semaine à toutes les personnes concernées pour vous donner l'horaire. Nouvel an, cette année le 31 décembre tombe un dimanche, un cinquième dimanche, donc nous vous proposons de passer les dernières heures de cette année ensemble. Donc avec un culte de partage suivi d'un apéro, repas, soirée animée. Donc il n'y aurait pas de culte le dimanche matin. On se retrouverait en fin de journée. Pareil, l'heure va être précisée. Et donc passer un moment donc ensemble en culte de partage et puis finir donc avec un repas et soirée animée. J'ai oublié la feuille d'inscription dans l'imprimante. Donc elle sera affichée dès la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà venir me dire si vous le savez aujourd'hui et si vous êtes intéressé à vous inscrire. Donc, vous pouvez déjà me le dire et je vous inscrirai moi sur la feuille. Pour l'organisation, donc je le répète, il n'y aurait pas de culte le dimanche matin, donc il y aura le culte et en fin d'après-midi. Et pour le repas, nous demandons donc les apéros et les desserts donc aux personnes qui s'inscrivent pour le repas. Et le repas, le plat principal et les boissons seront préparés par une équipe. Et puis aussi, par rapport à la soirée, si vous serez présent et que vous avez des idées d'animation ou des envies, bah, venir m'en parler pour qu'on puisse donc mettre en place ce moment convivial pour tous ensemble.
Merci, c'est vrai que c'est bien de pouvoir passer ensemble les moments forts comme ça de l'année. Moi, je vous rappelle encore le dépôt de Noël et la vente des calendriers. Pensons aussi à ceux qui vivent des moments pas faciles. Alors, Georges et Thérèse sont allés chez leur fille qui habite près de Valence. Et puis, heureusement, Dieu les a gardés parce qu'ils ont eu un accident de la route. Un grave accident même, a priori la voiture est fichue. Mais après avoir passé des contrôles, donc ils ont été à l'hôpital, ils n'ont pas de séquelles, ils ont été vraiment gardés, il y a eu un choc frontal. Donc voilà, pensons à eux, ils sont quand même choqués, même s'il n'y a rien de grave à long terme. Donc on peut voilà, les remettre dans nos prières et remercier aussi Dieu de les avoir gardés. Mariano, le papa de Thérèse est sorti de l'hôpital, il est chez l'autre sœur, Bégonia, chez sa fille. Continuons de penser à Mariano, il s'alimente peu, il n'a pas beaucoup faim, il est faible, voilà, il a besoin aussi de nos prières. Des nouvelles aussi de Didier, qui est parmi nous ce matin. Didier a depuis le printemps, il nous avait partagé un cancer de la peau. qui s'est déclaré sur le pectoral. Donc voilà. Alors ce cancer a été soigné tout d'abord sans chirurgie, mais ces soins n'ont pas donné les résultats voulus. Alors jeudi passé, Didier a eu un rendez-vous chez un chirurgien plasticien à Lyon et une opération est fixée au mardi 19 décembre. Donc, voilà, Didier, on pense à toi. Que Dieu t'accompagne. C'est vrai que c'est une situation particulière de par la santé générale de Didier qui est affaiblie. L'opération en soi n'est pas compliquée ni grosse, c'est pas une grosse opération, mais voilà, c'est dans un contexte particulier aussi. S'il n'y a pas d'autres annonces, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets qui sont dans le dernier chapitre de Job. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. C'est Job qui dit ça, après tout ce qu'il a vécu. Et il finit en disant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.